Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
En fin de semaine, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, il y avait toute une série sur les artistes qui partent en tournée cet été selon différents moyens de transport. Et parmi ces artistes-là, il y a Michel Barrette. Puis là, je lisais ça, puis je me disais, ben oui, mon ami Michel part en tournée, ben oui, jusque-là, il n'y a rien de surprenant. Mais quand je vois écrit la dernière tournée, son dernier spectacle, ben voyons donc, Michel Barrette. Dernier spectacle, ça marche pas ça. On va lui parler tout de suite. Michel, bonjour.
Mais Sophie, ma chère Sophie, t'as la même réaction que ma femme.
Ben là.
Qui dit mon amour, voyons donc, d'après toi, arrête de dire que c'est ta dernière tournée. Tu sais bien qu'ils sont pas capables de t'empêcher. Je dis oui, mais amour, je peux-tu un jour avoir 65? Là, j'ai 64. La tournée va m'amener à 65, presque 66. J'ai pas le droit.
Non. J'ai pas le droit d'arrêter. Non, t'as pas le droit.
J'ai pas le droit.
Non, t'as pas le droit. Puis on salue ici Maude, ta blonde, que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Et c'est une femme de raison et tu devrais écouter ta femme plus souvent. D'ailleurs, tu devrais dire à ton chum Martineau aussi d'écouter sa femme plus souvent. Bon, cela étant...
Pas comme t-shirt, moi.
Non, mais
oui,
sérieusement.
Dit, alors, disons que cette tournée-là va exister.
Oui.
Elle va avoir une fin à un moment donné. Et la suite des choses, on pourrait en reparler un jour... Mais je me revois sur scène, mais d'une manière différente. Ça serait intéressant qu'on s'en jase bientôt.
Oui.
Comment je me revois sur scène? Quel plaisir, parce que je peux pas m'empêcher de raconter, OK? Mais la version nouvelle, puis je veux même pas le dire, parce que j'ai pas quelqu'un d'autre de face avant, mais il y aurait une version intéressante, je crois, de Barrette nous raconte quelque chose.
J'aurais peur que quelqu'un le fasse à ma place. Personne d'autre peut faire du Michel Barrette. Là, je te rassure
non.
tout de suite.
Michel,
faisons un petit bilan quand même des derniers mois qui ont été extrêmement difficiles pour les gens qui, comme toi, aiment monter sur scène, aiment parler avec du monde, aiment voir le visage de quelqu'un
oui.
qui rit. À quel point ça a été difficile pour toi les 14 ou 15 derniers mois?
D'abord, les premiers mois, il n'y avait simplement plus aucun spectacle. On se souvient, salle de spectacle fermée. Alors là, pendant les mois, là, tu ronges ton frein parce que tu dis « Est-ce que je vais remonter sur scène un jour? » Parce que on était vraiment... Quand on nous a... Je me vanterai pas de ça, mais je veux dire, tiens, j'étais un des premiers, sinon le premier, à lever la main et dire, vous savez, même s'il y avait trois personnes dans la salle, j'irais pareil, parce que j'ai besoin de raconter. Et là, les salles ont commencé à appeler les diffuseurs de la province en disant, êtes-vous sérieux? Parce que vous savez, on pourrait peut-être s'ajuster. Alors, avec le l'aval du gouvernement, ils ont pu dire, écoutez, si vous gardez une certaine distanciation, si les gens gardent le masque, si on a vraiment une procédure d'entrée et de sortie, de nettoyage de la salle entre chaque spectacle, on pourrait s'ajuster. Ce qui fait que, depuis quelques mois, on donne des spectacles, puis on en donne en tabarouette, mais devant, parfois, tout dépendant de la région, parfois des gens masqués, parfois pas, souvent avec une très grande distance entre chaque couple, ce qui donne des choses comme j'ai fait Ville de la Baie, une salle de 2000 places où il y avait, tenez-vous bien, 250 personnes, parce que
ouais.
c'est le maximum autorisé. J'ai fait Thetford Mines devant, je sais pas, 80 quelques personnes, ce qui fait que soir après soir, je deal, excusez-moi l'expression, avec les gens qui aura dans la salle. Mais quand on est habitué de faire des salles combles, parce que ça fait quand même bientôt 40 ans que je fais ça, j'ai un public, les gens sont gentils, viennent me voir, c'est quand même, t'as l'impression d'être devant un océan avec quelques chaloupes, tu sais.
J'adore la comparaison. Non, mais l'image est très forte, Michel, mais c'est ça aussi ton talent. C'est en quelques mots d'arriver à évoquer toute une situation et l'image de quelqu'un, en effet, qui est sur la mer et il y a juste quelques chaloupes, alors qu'habituellement, c'est la marina de
Repentigny, oui.
Oui, de Repentigny, avec plein de bateaux. Mais j'essaie juste de comprendre, parce que moi, je n'ai jamais fait ça. C'est pas mon métier de monter sur scène et de parler à des gens. Et quand tu dis « ça me dérange pas de le faire devant trois personnes », est-ce que c'est vrai ou c'est du du discours d'artiste qui veut dire « mais moi, j'aime mon public, puis mon public m'aime ». Vraiment, quand tu fais un spectacle devant 80 personnes, est-ce que tu as le même plaisir que quand il y en a 2000?
Soyons honnêtes. C'est que le plaisir de raconter est là, mais la condition ne l'est pas.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est un peu comme si, je vais faire une comparaison avec la course automobile, on me dit « Michel, tu peux entrer sur la piste, tu vas pouvoir rouler, tu vas avoir du fun, tu t'ennuyais de ça, mais tu vas rouler sur trois roues. On va t'enlever une roue. »
Je pensais que tu allais dire « C'est comme si on me donnait une Lamborghini puis que je pouvais pas aller plus vite que 30 km
heure. » Il y a aussi ça. Mais comme on est tous dans la même
ouais.
condition, dans la même position, c'est que recevoir le rire de 1500 ou 1800 personnes. La semaine passée, j'ai donné 2 ou 3 soirs à Albert Rousseau, parce qu'il y a aussi une autre chose. C'est que moi, j'avais vendu beaucoup de billets. Exemple, Albert Rousseau, des milliers de billets vendus qui ont dû appeler les gens, dire, écoutez, vous deviez assister au spectacle le 8, ben là, votre spectacle, vous allez faire partie de la version 250 personnes. Vous avez le choix entre le 22, le 23, le 24, le 25, parce que à chaque 1000 billets, on s'entend.
Mais oui, il faut honorer les billets.
Ce qui fait que je donne des spectacles, 2 représentations par jour. La semaine passée, ben il y a une semaine, je venais de terminer, tenez-vous bien, 10 spectacles en 7 jours.
Hein?
Oui, mais ça, c'est mes semaines actuelles sont comme ça. En fin de semaine, je donne 4 shows en 2 jours à Saint-Eustache, parce que c'est un show, souvent l'après-midi, 3 heures, après ça, 7 heures, ou début de soirée, 5 heures, 7 heures et demie. Chaque place est différente, mais je monte sur scène, je termine le show, on nettoie la salle, on fait rentrer un nouveau public et je refais le même show.
OK, alors je pense que finalement, Maud a raison. Maud n'a pas oui, raison. Arrête. Je pense que finalement, c'est toi qui as raison. Oui, il va falloir que tu t'arrêtes à un moment donné, sinon ça va...
Ça pourrait pas. On ne pourrait pas continuer
mais
à,
non,
ce rythme-là.
À ce rythme-là, c'est pas possible. Donc, quand on dit que tu vas être en tournée tout l'été, ça peut pas être un rythme de 10 par semaine, sinon on va te ramasser à la petite cuillère, Michel. Là. Non.
Ce que j'ai fait, c'est que je termine à Saint-Eustache ce week-end. Après ça, il y aura quelques spectacles à la mi-août à Granby, et je serai en série de spectacles là, je m'en vais à Gatineau. Et là, j'ai pas l'horaire devant moi, mais ça sera pas une tournée de fou cet été. Alors, un peu de Gatineau, un peu de Granby, en tout cas, vous irez voir l'horaire. Mais quand je vais reprendre à l'automne, souhaitons qu'on puisse remplir les salles.
Mais oui,
parce que moi et les autres, on pourra pas continuer, mais même pour le public. Sophie, si t'es au milieu d'une foule, t'es dans une salle remplie à pleine capacité, OK?
Mm-hmm.
T'es avec ton chum, tu ris. Ben, le rire emporte le rire, les gens autour de toi, ils ont du fun, puis là, tu disparais dans la foule. Mais lorsque tu as une distanciation, ben, t'es avec ton chum, à 2 mètres de toi, il y a un autre couple, à droite, il y a un autre couple, en avant, il n'y a personne, parce que la première rangée, personne, deuxième rangée, des couples
séparés
à 2 mètres. C'est pas pareil, parce que c'est difficile de créer l'ambiance. Mais heureusement pour moi, j'arrive de Chicoutimi, j'ai vu les gens rire. Je me disais, hey, ces gens-là, ils rient, ils applaudissent, ils sont debout à la fin. Imaginons maintenant qu'au lieu d'être 250, il y aurait été, je ne sais pas, Chicoutimi, peut-être 1000. Alors, ça me rassure pour la suite. Mais il faut qu'il y ait une suite.
Ouais.
Il faut qu'on s'en sorte et qu'on. Les gens ont été gentils. Les gens veulent rire, les gens veulent sortir. Je lui dis, il faut vous m'aimiez en tabarouette pour être dans ça. Oui, on t'aime. Et parce que. Ils veulent aller au théâtre, ils veulent aller au cinéma, ils veulent aller voir des humoristes, ils veulent entendre chanter, on veut tous vivre, on veut. Et le fait que les gens se soient déplacés, c'est la survie même de l'industrie qui
est en jeu, oui.
Qui est en jeu, mais qui va s'en sortir, parce qu'il y a des salles vraiment qui sont en danger. Il y en a encore qui le sont parce que.
Mais c'est important le point que tu soulèves, oui, c'est vrai, parce qu'on parle tout le temps. Bon, évidemment, nous, on est des journalistes, on fait des entrevues avec les videttes. Bon, mais là, je te parle à toi.
Non, c'est bien beau.
Mais s'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de vedette.
Non, puis il n'y a pas de vedette, il n'y a pas de technicien de scène.
Ouais.
Moi, à la fin de chacun des shows, je remercie les gens d'être là. Pour moi, bien sûr. Pour ceux qui sont les artistes de scène, que ce soit le mime ou le théâtre ou le chanteur ou l'humoriste, mais aussi les gens derrière. Moi, les gens qui tu sais, les techniciens de scène, au théâtre, toute cette industrie-là, elle existe parce qu'il y a un public pour venir nous voir. Alors, il ne faut pas oublier que si on a des salles, si on a des shows, si on peut aller, c'est parce que toute cette industrie-là, il n'y a pas juste la vedette sur scène qui est importante, c'est tout ce monde-là. Alors, ouais. Merci de venir voir les shows. Puis nous, on va continuer. Moi, je vais en donner 4 en fin de semaine à Saint-Eustache. On va avoir du fun. Je vais faire rire. Vous allez sortir. Vous allez avoir mal partout. Tant mieux. Et après ça, imaginez la suite.
Imaginez la suite, en effet. Écoute, tu as mentionné que tu étais récemment à Chicoutimi. J'ai vu un article sur toi dans Le Quotidien, donc le journal de Chicoutimi, où tu étais là, on apprend que tu étais là aussi parce que tu prépares un reportage pour la chaîne Historia. Et là, j'ai regardé la date, ben c'est donc ben vrai. C'est le 25e anniversaire du déluge de 1996. Raconte-moi le tournage, raconte-moi comment ça s'est passé.
Ah, ça s'est très bien passé parce que, bon, d'abord, c'est la maison de production Zone 3 qui m'ont rejoint. M'ont dit, écoute, Michel, ça va quand même être le 25e. J'ai eu la même réaction que toi. Je fais, quoi, déjà 25 ans? Ensuite, Pierre Gagnon, le réalisateur que je connais depuis 20 ans, qui a réalisé plein de projets de télé sur lesquels j'ai travaillé. Alors, on a formé une belle équipe avec la ligne de Zone 3. On est débarqué, la recherche formidable. Alors, bien sûr, des victimes, des gens qui, je pense aux jeunes, au jeune homme de la baie qui a perdu son petit frère et sa petite sœur, les deux jeunes victimes de Ville de la Baie. Je pense à deux dames qui ont perdu leur père et leur mère parce qu'il y a eu aussi, si on pense, il y a eu ce voilier qui a coulé à l'embouchure du Saguenay parce que suite au même phénomène, c'est-à-dire trop de pluie, trop d'eau,
ouais.
Mauvaise température, il y a bon. Alors, il y a des survivants. Il y a aussi des gens qui ont tout perdu. Il y a des politiciens qui viennent nous expliquer comment ils ont dû gérer, ils ont oublié la politique pour quelques instants, comment le fédéral et le provincial se sont retrouvés coude à coude en train de dire, là, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, que ce soit Jean Tremblay, notre Jean Tremblay national.
Ben oui, le maire.
Est devenu maire. Expliquait ouais. qu'il n'était pas maire à l'époque. Il est devenu maire à cause de sa réaction face aux inondations du Saguenay. Parce que lui, il avait un plan, puis il s'est dit, il faut faire quelque chose, c'est ça qui l'a mené en politique. Alors, ça va dans tous les sens. Les images que vous allez voir vont vous rappeler. Je me souvenais pas à quel point c'était immense. J'ai eu la chance
c'est
de
fou.
Voler.
Oui, raconte, t'as survolé. Oui, raconte ça.
Oui. Ben, j'ai survolé avec plusieurs militaires qui étaient déjà à l'époque, ben, qui étaient même de jeunes militaires, je pense au colonel dont j'oublie le nom, avec qui j'ai volé, qui avait comme 22 ans à l'époque, puis qui me disait qu'il avait piloté 10 heures par jour à aller secourir des sinistrés là, qui étaient isolés en forêt ou qui avaient la maison. Alors, j'ai fait le survol de ma belle région et la cicatrice est encore là. C'est-à-dire que, bien sûr, la rivière est beaucoup moins large, mais la trace laissée par la rivière au moment du déluge est encore présente, puis vous devinez qu'il n'y a personne qui veut se reconstruire là-dessus.
Ben, c'est sûr.
Alors, c'est une blessure. Ça a été beaucoup de résilience, on se souvient, beaucoup de solidarité de la part des Québécois. J'étais aux premières loges, moi, parce que, bon, je me souviens de lever de fonds, je me souviens d'avoir...
Ton spectacle bénéfice.
Oui. Ouais, tout ça, le bye-bye qui s'est fait au Saguenay. Tout. Alors, je dis aux premières loges de la suite des choses. Mais les gens qui étaient aux premières loges, qui ont vécu le drame, moi, j'étais pas dans la région à ce moment-là, mais vous allez entendre des choses assez troublantes, assez marquantes, et vous allez avoir des images qui vont vous rappeler que c'était pas banal comme projet.
Ouais. Parle-moi de la petite Maison Blanche quand t'es rentré.
Ben moi, je suis rentré quand je suis allé à la petite Maison Blanche à l'époque, très peu de temps après le déluge, les pompiers m'avaient permis d'entrer dans la maison. Ils ont dit, Michel, avant qu'on nettoie tout ça, puis ils savaient pas si on allait la détruire ou bon. Mais heureusement, ils l'ont gardé comme symbole. Là. Mais je suis entré, et écoutez bien sûr, vous avez tous vu les images de la petite Maison Blanche avec l'eau qui coule du sous-sol, tu sais. Tu vois l'eau, là. Ils l'ont reproduit, d'ailleurs, ce phénomène-là avec des pompes, là. Mais moi, je suis assis dans la cuisine, dans la chaise berçante de la dame qui vivait là, dame qui est décédée peu de temps après le déluge, et j'avais son café sur la table, son magazine, son tricot. Assis dans la cuisine, là, ça veut dire que t'aurais pu vivre le déluge dans sa cuisine. Et j'allais dire, c'est en train de percevoir, bien sûr, mais je veux dire, les cordes n'ont pas bougé, tout était
incroyable.
Sauf qu'il y avait comme 8 pouces de boue sur le plancher.
Incroyable.
Au milieu, c'est comme si ça me fait penser un peu à Hiroshima, le bâtiment qui reste là-bas, qui est au centre de
oui, Hiroshima, Nagasaki, oui, tout à fait. Ou même quand tu vois des vestiges de Pompéi, des gens qui ont été vraiment surpris en plein milieu d'une éruption de volcan. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui reste figé dans le temps. Écoute, on est passé du rire au drame, ce qui est vraiment le genre d'univers dans lequel tu es capable de nous amener parce que tu es un excellent raconteur. Alors, écoute, bonne tournée cet été, Michel. On a très hâte aussi de voir plus tard cette année sur les ondes d'Historia un rappel de ce qui s'est passé il y a 25 ans, le fameux déluge. Puis, salutations à ta femme.
Une autre chose qu'on a hâte aussi, là. Peut-être de se voir.
Oui.
Oui, moi.
Oui.
Moi,
ben alors, je t'embrasse. Salutations à ta femme, puis on s'organise ça pour bientôt, mon bel ami Michel. Je t'embrasse.
Trop gentil, merci.
Ben oui, c'est un ami à moi, Michel Barrette. J'en ai jamais fait de secret. Donc, vous allez pouvoir le voir en tournée cet été. C'est toujours chouette de lui parler. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci Jean-François Roy à la mise en onde et à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Et moi, je vous dis merci d'être là. Puis j'ai hâte de vous retrouver demain.